Nous ouvrirons maintenant la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, les versets 11 à 20, et je le lirai dans la NBS, la Nouvelle Bible Second. 2 Corinthiens 5, versets 11 à 20. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les humains. Nous sommes en pleine lumière devant Dieu et j'espère être aussi en pleine lumière dans votre conscience. Nous n'allons pas nous remettre à nous recommander nous-mêmes, à vous, mais nous vous donnons une occasion d'être fiers de nous, pour que vous ayez de quoi répondre à ceux qui mettent leur fierté, non pas dans le cœur, mais dans les apparences. En effet, si nous avons perdu la raison, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous, car l'amour du Christ nous presse. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, c'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen.
On vous a lu un texte de l'apôtre Paul. Nous nous attarderons sur l'exhortation et l'appel de Paul, et notamment au verset 20 du chapitre qui nous a été lu, lorsque l'apôtre, s'adressant à l'église de Corinthe, leur dit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour le Christ, c'est Dieu qui encourage par notre entremise, au nom du Christ, nous vous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Bien des siècles après la rédaction de ces lignes, de cette lettre, les propos de Paul sont toujours d'actualité pour l'Église, et nous sommes bien entendu, en tant que membres d'Église, concernés par son orientation. Intéressant de voir que dans son expérience, l'apôtre Paul s'approprie des mots, utilise un vocabulaire en rapport avec sa nouvelle expérience. Si l'on examine les différentes traductions de nos Bibles, il n'y a aucun doute pour Louis II, que généralement nous avons, il est dit « nous sommes des ambassadeurs ». Pour la traduction d'Alfred Kuhn, nous faisons fonction d'ambassadeur. Pour la TOB, traduction œcuménique de la Bible, plus intéressante parce qu'elle n'est pas la traduction d'une personne, mais d'un ensemble de personnes, la traduction « nous sommes en ambassade ». L'apôtre Paul est un apôtre qui n'a fait aucune étude particulière de diplomatie. Il n'a pas étudié le droit international et il ne jouit d'aucune immunité particulière, et pourtant il se dit « nous sommes ambassadeurs ». D'ailleurs, dans sa lettre aux Éphésiens, une autre lettre rédigée à une autre église, il invite ses lecteurs au chapitre 6 et au verset 19 à prier pour lui, c'est-à-dire qu'il souhaite rester en osmose avec l'église primitive afin, écrira-t-il, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donné pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Par deux fois, l'apôtre s'identifie à un ambassadeur. Sa carrière n'est pas une carrière de diplomate. Alors qu'avant sa conversion, dans son ancienne vie, il se nommait Saul, en créant bien des difficultés aux nouveaux convertis chrétiens. Ce persécuteur de l'Église avait même approuvé la lapidation d'un diacre nommé Étienne. Et les textes, celui des Actes, se plaît à nous raconter, à nous décrire les derniers instants de cette exécution. Saul était présent, les Actes le mentionnent, et Saul avait probablement entendu Étienne expirer sous les pierres, la lapidation, en émettant les mêmes paroles que le Christ. Étienne disait « Seigneur, reçois mon esprit ». Actes 7, verset 59. Et Jésus, de son côté, utilise les mêmes propos. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc, chapitre 22, verset 46. Étienne supplie « Seigneur, ne leur incombe pas ce péché. » Actes 7, 90. Et 7, 60, pardon. Et Jésus, de son côté, dans sa prière à Dieu, dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Le livre des Actes et l'évangile de Luc sont rédigés par la même personne, un docteur en médecine, Luc. Saul devient, par sa conversion, il l'écrira, une nouvelle création, parfois on traduit par créature, mais une nouvelle création, et il devient Paul. Le Christ a bouleversé sa vie. Ce revirement reste, bien sûr, l'action invisible, mais mesurable, du Saint-Esprit. Un ambassadeur est une personne censée représenter son pays à l'étranger, c'est-à-dire dans un territoire qui est différent du sien. L'apôtre Paul, dans ses différents voyages missionnaires, représente le royaume de Dieu à venir. Ce règne de Dieu fait l'objet de son enseignement et de l'exhortation transmise dans ses différentes interventions. Lorsque Paul se trouve à Rome, au cœur de l'Empire romain, il enseigne la communauté juive qui est en diaspora. Et si nous prenons le texte chapitre 28 du livre des Actes et au verset 23, le texte dit ici que les Juifs lui fixèrent un jour et revinrent le trouver en plus grand nombre dans son logis. Dans son exposé, Paul rendait témoignage au règne de Dieu et s'efforçait par la loi de Moïse et les prophètes de les persuader de tout ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. J'imaginais une journée entière partagée entre l'exposé, l'explication, l'échange avec son auditoire sur le règne de Dieu, sur le royaume à venir, et l'apôtre précise détenir aussi son mandat du Christ. Parce que Paul a été bousculé sur le chemin de Damas, il reste 3 jours sans voir et sans manger, Paul peut partager son vécu et par là encourager ceux qui l'écoutent. Il parle de lui, de son expérience bien sûr, mais il évoque surtout au sein des synagogues Yeshua, le Christ Jésus, le Fils de Dieu. Cet ambassadeur de Jésus-Christ s'identifie aussi, curieusement, comme un esclave de Jésus-Christ. Mais cela, il ne le dit pas à tout le monde. Il se présente ainsi aux Romains dans l'introduction de sa lettre et aux Philippiens, en prenant soin aux Philippiens d'y associer son collaborateur, le jeune Timothée, qui est lui aussi esclave de Jésus-Christ. Paul se veut volontairement sélectif dans la rédaction de ses lettres en mentionnant ses fonctions. Dans deux épîtres, il se nomme ambassadeur. Ailleurs, il ne dit rien, mais partout, dans toutes ses lettres, il revendique le titre d'apôtre pour bien montrer qu'il est mandaté. Un ambassadeur, esclave, apôtre, mandaté par Jésus-Christ. Voilà donc de quoi embarrasser les douze qui, eux, ont connu Jésus en collaborant avec lui de son vivant. Paul sera obligé de défendre son ministère que certains lui contestaient. Vous savez qu'un ambassadeur se détermine par plusieurs caractéristiques. C'est une personne qui jouit de sa liberté d'expression. Et dans son expression, un ambassadeur montrera ses compétences de diplomate, de négociateur. En tout cas, c'est une liberté d'une actualité brûlante dans notre pays où nous sommes les uns et les autres, si nous sommes ici en France, attachés aux libertés publiques, les plus fondamentales et aux droits de l'homme, d'autant que l'article 11 de la Déclaration de 1789 stipule bien que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Il fait écho, cet article, au précédent, où nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. La liberté d'expression. C'est à la fois la liberté de penser dans sa tête et la liberté de pouvoir exprimer sa pensée. Et c'est la liberté pour chaque individu d'adopter dans n'importe quel domaine l'attitude intellectuelle de son choix, qu'il s'agisse d'une attitude intérieure, d'une pensée intime ou d'une prise de position publique. En somme, c'est la liberté, à la fois la liberté de penser, d'exprimer sa pensée, comme on l'entend, de s'affirmer, et même d'oser exprimer des opinions contraires à celles de la majorité. Pour l'apôtre, dans sa fonction d'ambassadeur, c'est la pensée du Christ qu'il met en évidence. Cela ne veut pas dire que l'apôtre annule sa propre opinion, qu'il renie l'éducation qu'il a reçue par le maître Gamaliel, mais son opinion et sa culture lui permettent de mieux présenter la personne de Jésus-Christ. Ce sont des atouts importants. Lorsque l'apôtre Paul est en présence d'une situation délicate, il s'est créé des ponts avec ses interlocuteurs. Paul est l'homme qui sait parfaitement s'adapter aux différents lieux et aux circonstances pour mieux représenter non pas des idées personnelles, non pas un concept qu'il manipule, mais pour mieux présenter l'homme qui était Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui a bouleversé sa vie, celui qui a fait de lui un artisan de paix. Son savoir-faire à Athènes est révélateur. L'apôtre vient à Athènes, et nous avons bien entendu le livre des Actes qui nous explique cela. L'apôtre est exaspéré à la vue dans cette ville de voir autant d'idoles. Et au milieu de l'aréopage, Paul commence, dans son développement et dans ses relations avec la population, commence à souligner la sensibilité religieuse de ses contemporains. Parce que Paul ne se trouve pas dans une ville d'Athènes avec des athées, il se trouve avec des croyants. Et à ces croyants, il leur parle comme il faut parler à des croyants. Il les trouve, et il souligne leur sensibilité religieuse, il les trouve religieux, et c'est vrai. Et puis il va rebondir sur l'inscription qu'il a vue sur l'un des autels, dédié à un dieu inconnu. Il rebondit pour parler, ce dieu inconnu, c'est Yahvé, c'est Dieu. Et il parle du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il sait aussi, cet apôtre Paul, se faire tout à tous, comme il l'écrira dans l'une de ses lettres, qu'il sait parfaitement s'adapter et présenter ainsi son savoir-faire d'ambassadeur. La liberté d'expression, en général, implique toujours d'être mesuré, en respectant la conscience des personnes. Alors il me faut être encore plus précis et plus actuel par rapport à notre temps. Nous avons vécu tout récemment des moments tragiques dans notre société, inutile de les rappeler parce que les médias ont largement commenté cette actualité sous tous les angles. Celui qui se donne d'ailleurs la peine de chercher pourra encore trouver d'autres angles à ce drame qui a pris des proportions démesurées par ses rebondissements. Alors que la religion chrétienne est aujourd'hui la plus menacée dans le monde, avec plus de 50 pays persécutant 150 à 200 millions de chrétiens, il a suffi d'une série de caricatures pour attiser le feu. Une expression est apparue, « Je suis Charlie », et nous sommes passés du slogan à la marque déposée, que tout le monde s'empare, et en se l'appropriant, on a l'impression d'avoir tout dit, tout compris et tout soutenu. Personnellement, je ne suis pas un familier de la presse satirique, je ne suis pas sensible à un humour en équilibre sur le fil du rasoir entre la provocation, l'insolence et la dose d'anarchie qui se fait toujours au mépris de certaines valeurs et les leaders, les ancêtres d'Arakiri ne me démentiront pas. L'expression de la caricature, vous savez, c'est quelque chose qui est très ancien et qui ne s'est pas toujours faite sous forme de dessin. Ce n'est seulement qu'à la fin du XIIIe siècle qu'elle a apparu sous cette forme, sans être obligatoirement rattachée à un texte. C'est en réalité la conséquence d'un État démocratique où chacun peut s'exprimer contre le pouvoir, contre l'ordre établi de l'État ou de l'Église. Un auteur contemporain affirmait, dans la plupart des pays, les citoyens possèdent la liberté de parole, mais dans la démocratie, ils possèdent encore la liberté après avoir parlé. La presse satirique se veut aussi contre la religion. Que ce soit les religions établies, majorité ou minorité, ce n'est pas très important, que ce soit les sectes, que ce soit le monothéisme ou l'hindouisme, et dès son origine républicaine, elle s'est exprimée au départ en raison de l'abus de l'autorité du magistère. Son anticléricalisme se veut contre les abus des princes de l'Église et contre les religions dont elle perçoit inévitablement l'obscurantisme. sous le régime de Vichy, elle était utilisée contre les Juifs. Sans entrer dans des détails, nous savons bien que la liberté d'expression, c'est ce que je vous sais de vous faire sentir ce matin, c'est que la liberté d'expression a besoin d'être régulée. Et que cette liberté pose un certain nombre de questions pour favoriser le mieux vivre ensemble. Jusqu'où peut aller cette liberté dans son expression publique d'opposition à la cité, à la religion, à l'éthique, même dans un climat politique le plus libéral? Tout est-il permis, utile, acceptable pour le rire? À partir de quel degré la provocation peut s'arrêter? D'ailleurs, ce qui est perçu par provocation par les uns ne l'est pas forcément par d'autres. Et puis, qui détermine ce qui est provoquant? D'ailleurs, le délit de blasphème n'existe plus en France depuis la Révolution, puisque les citoyens sont détachés de la notion du sacré. Nous ne trouvons qu'en Alsace-Moselle, par un article hérité du code pénal allemand de 1871, resté en vigueur après le retour à la France de ces trois départements d'Alsace en 1918, il fait partie du droit local. Vous voyez, frères et sœurs, comment se présentent les choses. Jeudi dernier, lors des obsèques de l'un des dessinateurs, un ministre a affirmé « on peut tout dessiner ». Y compris un prophète, parce qu'en France, pays de Voltaire et de l'irrévérence, on a le droit de se moquer de toutes les religions, en droit. Sur le principe, je n'y vois pas d'inconvénient, dans la grande tradition franchouillarde du bouffon du roi, des chansonniers, des parodies, des caricatures, des guignols de l'info, mais lorsque l'on banalise des thèmes comme le racisme, l'antisémitisme sous toutes ses formes, la divinité même, la magistrature, la justice, peut-on rire et se réjouir de tout ce qui touche de telles notions au-delà de la démesure? Un simple exemple, tout petit. Au cours de l'année 2014, pour chatouiller et titiller la rigidité de l'Église sur l'adoption, la rédaction de Charlie Hebdo s'était mise d'accord pour titrer sur la couverture Monseigneur 23, dont le cardinal archevêque de Paris, aurait-il trois papas? Et en dessous du slogan, on avait mis un dessin représentant Dieu, le Créateur, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. La représentation en elle-même n'est pas choquante, puisqu'il s'agit de caricatures. Mais les trois personnes se sodomisaient mutuellement. Comment peut-on rire sur les extravagances des bouffeurs de curés, et se moquer ainsi de certaines valeurs au nom de la libre expression? La liberté d'expression implique toujours et encore le respect d'autrui, surtout avec des sensibilités qui, par tradition culturelle, ne peuvent ni relativiser ni prendre au second degré les caricatures. Mais tout cela, bien entendu, ne justifie pas l'irréparable, parce que, en s'attaquant au cœur de la rédaction d'un journal, dans une salle de presse, c'est finalement un ensemble de libertés fondamentales d'un pays que des barbares, terroristes de la foi, tentent de détruire. Et tout ceci, je vous le dis pour illustrer le fait que l'exercice d'un journal satirique est aux antipodes d'un savoir-faire diplomatique. Un ambassadeur est généralement attaché aux droits de l'homme. Ses connaissances du protocole et de la culture de ses interlocuteurs, les négociations et les enjeux qu'il aura vis-à-vis de l'État qu'il représente ne peuvent que l'aider dans ses négociations. Il sait toujours se mettre à la portée de ses interlocuteurs, en sachant que souvent, un devoir de réserve ne lui permet pas de tout révéler, même s'il représente le pays de Voltaire, de Rousseau et du siècle des Lumières. Dans notre texte, l'apôtre Paul évoque une perspective importante de l'ambassadeur, celle de la réconciliation. Il supplie ses auditeurs, au nom du Christ, à se laisser réconcilier avec Dieu. La réconciliation, le mot est lâché. Vous savez que le projet initial de Dieu est perturbé par le manque de confiance du premier couple à son égard dans le jardin d'Éden. L'être humain a désormais rompu le lien ombilical qui l'unissait à Dieu. Et cette séparation a engendré des conséquences. La réconciliation devient donc nécessaire entre l'homme et Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est l'acteur par son action, son enseignement et le don de sa vie. Et le meilleur moyen de comprendre cette réconciliation est de suivre la vie de Jésus-Christ avec l'éclairage des évangiles. Nous découvrons le Christ réconciliateur en examinant son comportement auprès des interlocuteurs qui se présentent à lui. Le Christ ne condamne pas. Le Christ ne se moque pas de l'irrationnel. Le Christ oriente les gens dans une direction, dans une perspective. Il apporte le pardon. Il permet aux personnes de se redresser. Et si nous sommes présents dans les églises, aujourd'hui, dans l'église, c'est parce que Jésus-Christ nous a redressés, ou nous sommes en attente de paroles de Dieu et de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas comprendre les commentaires des apôtres dans leurs épîtres si nous ne sommes pas familiers avec la vie de Jésus-Christ. Un ambassadeur du Christ est appelé à réconcilier les personnes selon le programme transmis aux disciples lors du fameux sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu aimeras et tu détesteras. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est l'action préliminaire, frères et sœurs, à toute démarche de réconciliation. Nous tous qui appartenons à Jésus-Christ, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. En cette qualité, nous sommes porteurs d'un message de la plus haute importance, celle d'annoncer le pardon et le salut de l'homme. Nous devons l'annoncer à tous ceux qui l'ignorent, ce royaume de Dieu, parce que Dieu est disposé à créer des liens diplomatiques avec eux. Dieu désire réconcilier le monde avec lui-même. Nous n'avons pas à mépriser le monde sous prétexte qu'il y a parfois du mal dans le monde. Et parfois nous faisons des confusions entre le mal et l'humanité. L'apôtre Paul nous dit que nous portons le ministère de la réconciliation. Notre tâche est d'assurer la qualité de bonne relation entre les hommes, en les aidant à écarter les amalgames les plus élémentaires. Alors que nous avons vu paraître la montée de l'antisémitisme, nous voyons naître maintenant la montée de l'islamophobie. Nous voyons apparaître le durcissement des incroyants confortés dans le rejet des religions. Nous voyons apparaître l'effervescence de l'islam radical. Et dans ce contexte-là, dans cette ambiance-là, la liberté religieuse peut devenir embarrassante par ceux qui sont chargés d'appliquer les textes. Si nous voulons être respectés, nous nous devons de respecter les autres à quelque niveau que ce soit. Il importe donc, frères et sœurs, en tant que chrétiens adventistes, d'être véritablement des réconciliateurs de Jésus-Christ, des ambassadeurs. Le Dieu des chrétiens, des juifs et des musulmans est exactement le même. Ce sont les interprétations, voire les déformations que nous en faisons qui changent en le présentant sous un angle ou sous un autre. Dans la pensée de l'apôtre Paul, la nécessité de se réconcilier est si forte qu'il supplie les Corinthiens. Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cela implique qu'il y a des obstacles à la réconciliation, des éléments qui ne favorisent pas le premier pas en direction de Dieu. L'Église de Corinthe rassemblait des hommes et des femmes imparfaits. L'apôtre Paul n'a pas la prétention de les rendre parfaits, mais il est le maillon qui permet aux croyants de comprendre le sens du service de Dieu. L'Église primitive devait se préserver des influences des païens. Aujourd'hui, et parfois, nous devons nous préserver des agissements des croyants. C'est un chrétien contemporain, éducateur de jeunes, qui affirme « Dans toutes les religions, il y a des croyants et des extrémistes. La différence, c'est que les extrémistes mettent Dieu à leur service, alors que les croyants véritables se mettent au service de Dieu. » Amen.